R22 tout le monde présente
relecture
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 relecture en réécoute antenne Kiasma.
Bonsoir. Je suis content de démarrer. Le deuxième aura lieu donc cette semaine dans le festival Relecture qui est sur histoire et géographie. Moi je propose 4 aura lieu. Alors, aura lieu, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est l'idée de décrire des lieux à l'oral. Ça paraît simple. Et dans cette idée de décrire des lieux à l'oral, il y a à chaque fois des lignes directrices qui sont une vidéo prise dans le lieu. Et puis, je travaille avec des cartes à chaque fois qu'on a produit avec des graphistes. Et à chaque fois, j'essaie d'avoir un jeu différent avec les cartes. Donc, hier, je distribuais les cartes au public. Ce soir, je les garde parce qu'en fait, ça fait une petite fresque comme ça et elles n'ont pas d'intérêt toutes seules, donc vous n'en aurez pas. Vous dire de bien penser à éteindre vos téléphones portables et vous dire qu'en fait, il y a 5 aura lieu en principe. Le 5e aura lieu s'appelle Fulong et c'était quand on a commencé à travailler avec les graphistes qui ont fait les cartes. À un moment, on parlait de Fulong. Donc, les aura lieux ont lieu dans plein de lieux dans le monde, dans 5 lieux dans le monde. Et on parlait de ce lieu à Taïwan avec il y avait des usines nucléaires. Enfin, c'était un endroit étrange. Et je trouve que ça serait bien qu'il soit invisible. Et elles m'ont dit, on ne fait pas de sigle, on ne fait pas de carte. Alors, j'ai dit, je ne fais pas de perf. Et à ce moment-là, est arrivée une commande de Loïc Touzé qui m'a dit, ce serait bien qu'il y ait un chorégraphe et qui, avec d'autres gens, nous a dit, essayez d'écrire une pièce de danse qui n'est fait que pour être lu. Et donc, ça tombait parfaitement avec l'envie de faire un aura lieu qui ne serait pas performé. Et donc, vous avez des petits livrets à l'entrée qui sont Fulong et que vous pouvez emporter. Comme ça, vous avez au moins 2 aura lieux très différents, parce qu'évidemment, le principe d'aura lieu, c'est que c'est à l'oral et que moi, je suis plutôt auteur de théâtre et l'idée, c'était de ne pas écrire, c'est-à-dire de se jeter un peu, d'avoir évidemment préparé des choses, mais de se jeter des fois de manière plus ou moins aléatoire. Là, j'ai préparé un ordre, mais je ne sais pas si je vais le respecter complètement. Voilà. Un des principes, pour enfin terminer sur la description globale, un des principes qui guide la chose, c'était de me dire, je ne vais pas travailler sur des questions d'imaginaire. Je ne vais pas raconter une fiction. Je ne vais pas construire un personnage qui vivrait dans ce lieu et à qui il arriverait des choses. Je vais déconstruire ce lieu uniquement à partir de ce que moi je peux en sentir, de ce que moi je peux trouver après coup qui me parle dans ce lieu, faire des comparaisons avec des œuvres d'art. Voilà, c'est assez varié. Alors pour commencer celui-là qui s'appelle donc Plan Guenoual, une des choses que j'ai jamais faites, c'est que donc d'habitude les cartes n'ont pas de lien entre elles. Et puis là, alors selon où vous êtes, vous voyez plus ou moins bien mes propositions graphiques. Et je me demandais si j'allais la construire ou plutôt la défaire. Et parce que ce petit panorama est fait avec 2 photos d'enfance à moi, 2 photos d'enfants. Et je me disais finalement, j'ai pas de souvenir. Le lieu dont je vais parler aujourd'hui, c'est un lieu où j'ai été de très très nombreuses fois. C'est-à-dire qu'hier, je parlais d'un endroit en Grèce où j'ai passé mes vacances une fois. Et donc, je leur parlais d'une baie en Grèce. Et c'était un moment exceptionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit où j'ai été presque tous les mercredis et tous les dimanches pendant 10 ans. C'est-à-dire que j'ai grandi à Saint-Brieuc, au bord de la mer. Et j'allais presque, non pas quotidiennement, 2 fois par semaine, on sortait se promener avec ma maman. Et on allait très souvent à l'endroit dont je vais vous parler. Ce qui fait que c'est un lieu où la mémoire n'est pas du tout la même qu'un lieu qu'on voit une fois. C'est une mémoire qui se dépose et où il n'y a pas un événement précis. C'est-à-dire que c'est très difficile de se souvenir d'une chose. Je n'ai pas un souvenir de ce lieu. J'ai un souvenir du lieu traversé par plein d'étapes. Donc finalement, ça me paraissait plus juste de démarrer en défaisant les cartes. Parce que les photos s'en vont. Donc le premier, c'est défaire. J'ai mis un mot. Et l'idée de défaire, c'est vraiment que ça se déconstruit. Une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que je n'ai aucune image non plus de moi à cette époque-là. Évidemment, on ne sait plus qui on était. Par contre, la seule photo, une des photos qui est ici, je ne la vois que quand je vais voir ma grand-mère à la maison de retraite. Mais en fait, elle n'est nulle part ailleurs dans ma mémoire. Je ne suis pas sur cette plage spécifiquement. Alors la deuxième carte, il y a marqué Rosaire. Les Rosaires, c'est la plage dont il est question. Donc la performance s'appelle Plangenwald, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Les Rosaires, en fait, il faut imaginer que c'est la grande plage populaire de Saint-Brieuc. Si vous êtes de Saint-Brieuc, vous allez à la plage aux Rosaires. Alors c'est une très grande baie, hein, c'est une des plus grandes baies, je pense, de Bretagne. Simplement, le fond de la baie, on n'y va pas. Et on sort vers Plérin et on va aux Rosaires, qui est une plage d'un kilomètre et demi, pas du tout courbe, une grande plage toute droite. Et là, en fait, c'est cet endroit où j'allais. Alors, il y a des chemins de douaniers, donc on arrivait des fois de la pointe du Roselier, mais on marche sur une très grande plage et on est peu nombreux quand c'est l'hiver, on est un peu plus nombreux quand c'est l'été. C'est une plage qui, en fait, est sur la commune de Plérin et qui a une très, très grande étendue de sable. Et une des choses dont je me souvenais, c'est que quand on marchait sur la plage, il y avait des endroits où on marchait sur un sol assez dur, qui était le sable dur, et d'autres endroits, quand la mer s'est retirée, où on s'enfonçait beaucoup. Il y avait une espèce de sensation comme ça, variée, de ce que c'est que marcher sur une plage. Alors la troisième carte, c'est Gaillard. Alors là, c'est une œuvre d'un plasticien qui s'appelle Cyprien Gaillard, dont je vais vous parler. Cyprien Gaillard est un artiste qui est encore vivant, qui est même encore assez jeune. Et Cyprien Gaillard, il a été faire une œuvre au château d'Oiron. Alors, il a fait la grande allée du château d'Oiron. Alors le château d'Oiron se trouve dans l'ouest de la France, entre Poitiers et Angers, je dirais. Et au château d'Oiron, Cyprien Gaillard a fait la grande allée du château. Donc c'est un château qui a des siècles comme ça, et il y a une grande allée du château. Et en fait, Cyprien Gaillard a concassé d'anciens immeubles d'Aubervilliers pour faire la grande allée du château d'Oiron. Et quand on marche dans la grande allée du château d'Oiron, en fait, on piétine des immeubles beaucoup plus jeunes que ce château, c'est-à-dire des immeubles qui sont nés des siècles après ce château, qui ont eu le temps d'être détruits et qui sont devenus l'allée du château d'Oiron. Et ce sont des gros graviers, et on a une sensation très dure. Donc c'est très discret, parce qu'en fait, on peut ne pas le savoir, mais on est quand même en train de piétiner quelque chose d'assez solide. Et moi, ça m'a fait penser, enfin, c'est ce qui m'a fait penser à la grande allée du château d'Oiron, c'est qu'au bout de cette très grande plage dont je vous parlais, on marche, et puis au bout de 800 mètres de marche, la plage se termine par quelques petites falaises, et il y a une dune toute rose, de 3 ou 4 mètres de haut, qui est faite en coquillages extrêmement durs. Et quand on marche sur ces coquillages, pour moi, c'était vraiment la fin de la plage. Derrière cette dune, c'est le monde que j'explorais. Et on marche sur ces coquillages et on a une sensation qui est similaire, quelque part, à la sensation de la grande allée du château d'Oiron. C'est qu'on marche sur un sol qui n'est pas totalement normal à cet endroit-là. On est dans un endroit très, très, à la fois beau. C'est une dune rose de coquillages, mais très dur. On ne peut pas marcher pieds nus, sinon on se coupe. Et on est, voilà, sur cette dune. Et en fait, ces coquillages, ce sont des crépidules. Alors, nom latin, c'est Crepidula fornicata. Alors, Crepidula fornicata, en fait, ça vient de fornix, qui veut dire voûté. Donc, en fait, la crépidule est un petit coquillage voûté en forme bonnet phrygien. Donc, ça c'est la version gentille du coquillage. En réalité, la crépidule est une espèce invasive qui, donc, n'est pas française à l'origine, qui ne devrait pas se trouver là, tout comme, finalement, l'ancien building d'Aubervilliers s'était répandu dans la grande allée du château d'Oiron. On a, au bout de la plage des Rosaires, une espèce de dune rose qui crée des sensations inhabituelles, qui crée un paysage inhabituel. Et en fait, ces crépidules ne sont pas d'ici. C'est-à-dire que les Crepidula fornicata ont débarqué avec le débarquement après la guerre 39-45, accrochées aux barges qui ont fait le débarquement et sont venues d'Angleterre. Et elles se sont extrêmement bien trouvées en baie de Saint-Brieuc notamment. Et c'est devenu une espèce invasive, très, très invasive. Alors, pourquoi elle est très invasive? C'est qu'en fait, c'est une espèce hermaphrodite qui se reproduit les unes sur les autres. Donc, vous avez un petit bonnet phrygien sur un petit bonnet phrygien sur un petit. Le plus ancien est une femelle et les jeunes qui poussent dessus sont des mâles. Donc, vous voyez, vous avez en fait des colonies de Crepidula fornicata qui sont en train de se reproduire les unes sur les autres dans un échange perpétuel sexuel. Ce qui fait douter que fornix vient vraiment de voûter, mais peut-être que fornicata voulait dire autre chose. C'est l'humour des scientifiques. C'est un oradi. Le principe d'un oradi, c'est c'est quelque chose qu'on m'aura dit. Donc c'est quelqu'un qu'aurait vu aura lieu la dernière fois et qui m'en aurait parlé. Et finalement, à chaque fois, j'essaie d'introduire comme ça des choses qui n'étaient pas dans la performance. C'est un peu anecdotique, mais j'ai un oncle qui l'a vu la deuxième fois où j'ai joué cette performance. Et il m'a dit « Ah, ça me rappelle tes slips en laine ». Alors j'ai dit « Comment ça, mes slips en laine ?» Et il m'a dit « Bah, en fait, tu avais des pulls cousus par ta grand-mère, tu n'avais peut-être pas des slips en laine, mais tu avais des pulls cousus par ta grand-mère, et quand on disait qu'ils étaient moches, tu ne voulais pas en démordre et tu voulais les porter. » Donc voilà, il faut imaginer que sur la plage des Rosaires, j'ai dû porter de très nombreux pulls en laine, plus ou moins moches, parce que celui-là, c'est ma grand-mère qui l'a fait, et il n'est pas moche. Alors là, c'est Cavaignac. Cavaignac, c'est une rue de Paris. Il se trouve que d'un coup, on quitte l'enfance, je viens travailler à Paris et j'habite rue Godefroy-Cavaignac. Je ne sais pas si vous voyez la rue Godefroy-Cavaignac, c'est une petite rue près de la place de Voltaire, enfin près de Bastille. Et en fait, j'y ai vécu 7 ans et dans les 7 ans où j'y étais, on a détruit un immeuble et on a construit un parc, un petit parc qui fait la taille d'un immeuble en fait. Et le mercredi après-midi, quand je passais dans ma rue, il y avait énormément d'enfants qui jouaient dans ce parc. Et un jour, j'ai eu une espèce de révélation. Je me suis dit, c'est mon mercredi après-midi. Et ils le font dans cet espace extrêmement restreint. Et ce n'était pas du tout un jugement de se dire s'il y en a un qui est mieux que l'autre. Mais c'était d'un coup de réaliser aussi ce que ça avait pu être dans la formation peut-être d'un rapport à la nature ou à des choses comme ça, de grandir en allant, en ayant 1,5 km de large, et puis les jours d'hiver, on est 10 sur ce 1,5 km et 500 mètres jusqu'à la mer. Alors le suivant, c'est Planguenoual, on y arrive, c'est le nom de cet aura-lieu. Je vous ai parlé des Rosaires, qui est le côté le plus touriste, le plus vivable, l'endroit où on va se promener. En fait, l'autre côté de la baie, même quand on sort du fond de la baie qui est vaseux, on ne s'y baigne pas. Et en fait, c'est l'endroit où il y a la mytiliculture, c'est-à-dire qu'on y élève des moules. Et alors, c'est un endroit absolument incroyable où peu de gens vont. On peut faire des traversées de la baie à cheval ou quoi. Il faut imaginer qu'on est en pleine baie, il n'y a normalement rien du tout. Et en fait, dans cette horizontalité absolue du fond de la baie, qui sont des kilomètres et des kilomètres carrés de sable, à marée basse bien sûr, on a d'un coup des dizaines et des dizaines, voire des centaines de poteaux plantés, qui sont les bouchots pour les moules. Et c'est un paysage cinétique, c'est-à-dire que quand on marche au milieu des bouchots, qui sont, avec les moyens modernes, très très bien alignés, ça fait comme quand on passe, vous savez, dans les champs, c'est-à-dire qu'on a des enchaînements de poteaux qui s'alignent comme ça, et qui s'alignent, et c'est extrêmement impressionnant. Et on est dans un paysage qui n'est ni naturel, ni humain, c'est-à-dire que c'est évidemment un paysage où la marée reprendra ses droits. On est dans un endroit qui ressemble à une espèce d'œuvre d'art totale, mais qui n'est pas habitable, où on ne peut pas rester. Et c'est extrêmement beau. C'est comme un paysage qui serait déjà très fort en lui-même et qui serait strié de manière progressive par l'homme, je dirais. Pour expliquer la présence des mytiliculteurs en baie de Saint-Brieuc, il faut repartir en 1235. En 1235, il y a un Irlandais qui s'appelle Patrick Walton qui s'échoue sur les côtes vendéennes. Alors, il s'échoue sur les côtes vendéennes, il est extrêmement pauvre, la Vendée est extrêmement pauvre, il n'a rien à manger. Et en fait, il utilise une technique irlandaise pour capturer les oiseaux de mer. Il plante des filets dans la baie, à marée basse, pour que les oiseaux se prennent dedans. Et en fait, il va prendre quelques oiseaux, mais il va surtout se rendre compte que les moules prennent sur les filets et grandissent sur les filets. Et il va inventer comme ça la mytiliculture. Alors en général, c'est faux ce genre d'histoire, c'est souvent plusieurs personnes qui... Mais vous pouvez quand même retenir que Patrick Walton invente la mytiliculture en Vendée et qu'à partir de là, elle se développe en Vendée et dans d'autres pays du monde, que la Hollande fait énormément de mytiliculture. Pas du tout en baie de Saint-Brieuc jusqu'aux années 50. C'est-à-dire que pendant des siècles, la mytiliculture a lieu par exemple en Vendée. Colbert est le premier à donner des règles, à instituer des règlements pour la mytiliculture. En baie de Saint-Brieuc, on n'a que de l'horizontalité. On n'a pas de bouchot jusqu'aux années 50. Il faut attendre l'arrivée d'un animal absolument minuscule qui s'appelle le cope rouge. Alors le cope rouge, son nom savant, c'est Mytilicola intestinalis, ce qui parle assez bien, c'est un animal qui est un tout petit parasite et qui va se mettre dans les intestins des moules. En fait, faut imaginer un truc de 2 mm maximum qui ressemble pour moitié à un ver et pour moitié à une crevette. Et donc cet animal minuscule, on peut en trouver jusqu'à 40 à l'intérieur d'une moule. C'est sans doute parce qu'on est à une époque d'industrie et que les moules s'échangent d'un pays à l'autre qu'il se répand. Et en fait, il va décimer au sens propre, c'est-à-dire diviser par 10 la production des moules. Et il va y avoir comme ça une pénurie et des faillites chez les mytiliculteurs vendéens. Et à la suite de cette faillite, certains mytiliculteurs vont abandonner le métier. D'autres vont décider de chercher d'autres endroits de très grands marnages, c'est-à-dire des endroits où il y a une très grande marée, ce qui est absolument nécessaire pour la mytiliculture sur Bouchot. Et c'est comme ça qu'en 50-60 arrivent les premiers Bouchots et que ce paysage se verticalise et se recouvre sur toute la partie est de la baie de Saint-Brieuc de grands pics de bois que sont les Bouchots. Alors là, c'est un autre mot savant, c'est la débit suceuse. Alors la débit suceuse, c'est une manière aussi de raconter à quel point cette mytiliculture est devenue complètement industrielle. On est parti d'un petit garçon avec ses pulls en laine qui joue dans les flaques, et au même moment, de l'autre côté de la baie, il y a cette activité complètement industrielle qui est d'élever des moules. Et en fait, j'ai été visiter les hangars, et dans les hangars, on a un appareil qui prendrait toute la largeur de l'espace Chiasma, qui s'appelle la débit suceuse. C'est un très grand tapis, il y a des systèmes de rotors qui font monter les moules à l'intérieur, et après il y a des petits doigts mécaniques, c'est très impressionnant, vraiment comme des doigts qui agitent les moules pendant 2 mètres sur un tapis comme ça, et des petits rotors qui tournent, c'est des grands rayons comme ça qui tournent, et les uns dans le sens inverse des autres, et tout ça dans le but d'enlever les byssus des moules. Alors les byssus, ce sont les fils très fins qui relie la moule à son rocher. En fait, pour ceux qui sont intéressés par le biomimétisme, c'est un des trucs très étudiés par les scientifiques. Le byssus est quelque chose d'extrêmement résistant avec lequel on peut faire des sutures, etc. Mais là, pour nous, quand on veut manger des moules, il y a une machine énorme qui est uniquement dédiée à l'arrachage des byssus et qui s'appelle la débit suceuse. Les personnes qui bossent avec les mytiliculteurs, qui bossent sur les bateaux, qui bossent dans ce métier, sont appelées des matelots. C'était une des questions que je me posais et qui me questionnait beaucoup, c'était qu'est-ce que c'est que ce métier ? Finalement, c'est une affaire de famille. C'est souvent d'anciens Vendéens qui font de la mytiliculture depuis des siècles et qui sont arrivés en baie de Saint-Brieuc poussés par un animal minuscule. Mais en même temps, c'est souvent des gens qui ont appris des métiers extrêmement techniques. Ils ont maintenant des débit suceuses, des dégrappeuses. Enfin, c'est une industrie. Et en même temps, c'est aussi ce mélange entre agriculture et pêche. Et le plus bel exemple de ce mélange, c'est que je l'ai fait avec eux. On part sur un véhicule très, très grand qui a 3 énormes roues. On descend des hangars qui sont au bord de la mer et on arrive sur la baie et on va au milieu des bouchots. Et c'est là qu'on a notamment ce moment où on a une espèce d'effet cinétique d'alignement de bouchots comme ça. Et à un moment, on arrive, les bouchots sont hors de l'eau. Puis comme c'est une petite marée, il y a des bouchots dans l'eau. Et le véhicule sur lequel on est devient un bateau et se met à flotter. Et là, on est vraiment dans cette espèce de mélange de leur profession qui est vraiment un truc d'agriculteur, de s'occuper de petits animaux, mais aussi un truc de marin, parce que certains jours, ils font vraiment de la mer avec leur véhicule. Et en même temps, la moule est vraiment aussi un intermédiaire. Ce n'est pas un animal qu'on nourrit, à qui il faut donner à manger. Ça se fait tout seul. Et en même temps, ce n'est pas non plus une plante. Et c'est vraiment cet endroit étrange qui m'a aussi beaucoup intéressé. Souligner, il y a marqué là. Une des choses qui m'a touché, c'est que quand j'en parlais avec le mytiliculteur, c'est une des rares personnes, quand on lui demande si ça va, il me dit oui, ça va. Tout va bien, les moules poussent, il n'y a pas de gros parasites, il n'y a pas de menace du cope rouge. Et en fait, ça allait plus loin que ça, c'est qu'il ne le disait pas comme je vais le dire, mais en gros, il disait quand je ne travaille pas, le mouvement de la mer qui s'en va et qui revient, le mouvement des marées travaille, l'eau rentre dans les coquilles des moules, l'eau est filtrée, les coquilles grandissent, les moules grandissent et moi, je peux bien sûr surveiller, mettre quelques filets dessus pour pouvoir les dégrapper facilement. Mais grosso modo, le travail se fait en permanence et le travail, c'est celui de la marée. C'est-à-dire que c'est comme si, où que soit le mytiliculteur, quelque chose travaille dans son dos, et ce qui travaille dans son dos, finalement, c'est le mouvement du soleil et de la lune qui influence les marées. Et il est en permanence relié à ce mouvement des marées. Et c'était comme une sensation d'être souligné, c'est-à-dire que quoi qu'il soit en train de faire, même s'il y a un moment de vide, ça continue. Et il y avait quelque chose d'extrêmement rassurant dans cette sensation d'être relié au mouvement du cosmos. Et finalement, je me disais que c'était un peu de manière très, très différente, mais c'était quelque chose qui m'avait toujours travaillé. Moi, je fais du théâtre et j'ai fait des mises en scène, et je mettais toujours quelque chose derrière qui avait lieu en permanence pendant que les acteurs jouaient. Et je crois que la question que je me posais, c'était finalement la question du trou ou du moment où on tombe et où plus rien ne nous soutient, qui est évidemment une question encore plus brûlante, quelque part, plus évidente dans Aura lieu, c'est-à-dire que je pars de cartes. Qu'est-ce qu'il y a entre les cartes? Et il y a cette sensation pour moi que le film vidéo est ce... Et du coup, c'était presque retrouver un besoin, une sensation dont j'avais eu besoin. J'avais toujours besoin d'avoir quelque chose qui continue derrière. Et le mytiliculteur, lui, me disait, quand moi, je ne travaille pas, la lune et le soleil travaillent pour moi et ils sont derrière moi en permanence. Dans la baie de Saint-Brieuc, il y a des grandes marées, donc il y a évidemment l'eau qui s'en va et qui revient, et vous avez sans doute entendu parler des terribles algues vertes. Alors, c'est-à-dire que quand la marée s'en va et revient, et que des fois, elle dépose petit à petit des algues qui sont en fait une espèce qui, pour partie, était aussi une espèce qui a pu être terrestre et qui est retournée dans l'eau. Le fait est que ça dépose une couche absolument épaisse et très impressionnante qui colore la baie de Saint-Brieuc. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur du sable, on n'est plus sur un tapis croustillant et dur de crépidules, on est sur comme une peau qui recouvre toute la baie de Saint-Brieuc, qui est vert le premier et le deuxième jour et qui devient marron foncé très rapidement. Christian Prigent, qui est un auteur de Saint-Brieuc, comparait cette grande peau qui recouvrait la baie à la peau de sa grand-mère, ou à la peau qui avait sur le cou de sa grand-mère. Et évidemment, cette couche, c'est comme... alors, ça m'a fait penser, par exemple, à des œuvres de Christo et Jeanne-Claude, c'est-à-dire que finalement, on recouvre entièrement un paysage et on le fait changer de couleur. Et évidemment, on peut marcher dessus, et alors là, c'est une texture complètement étrange, comme si vous marchiez sur un matelas. Ça peut atteindre 30 cm, et c'est extrêmement agréable, et évidemment fatigant, hein, on ne va pas faire une randonnée là-dessus, mais on peut marcher sur un tapis mousseux qui s'enfonce les premiers jours, parce que vous avez peut-être entendu ça aussi, au bout de 2 semaines, ça crée des gaz extrêmement poisons et c'est mortel. Donc des sangliers en sont morts. Donc, je ne vous recommande pas la balade en plein milieu de la baie, mais c'est quand même une sensation très agréable, et puis une baie entièrement recouverte. C'est très, très beau. Croûte. Pour le plaisir de dire croûte. Non, parce qu'il y a les marées. Et puis, il faut savoir qu'il y a... Je me suis demandé comment fonctionnait... avec toute cette histoire de connexion avec la Lune, le Soleil, l'attraction. Et en fait, j'ai découvert que la croûte terrestre avait elle aussi ses marées, ce qu'on ignore, et qu'elle est à peu près de la résistance d'un métal assez dur, mais que quotidiennement, la croûte terrestre a une marée de 30 cm quand même, et la planète se déforme comme la mer. Alors, il est peut-être temps que je retourne dans mes flaques. Je suis d'une famille qui n'est pas de... Je ne suis pas d'une famille de mytiliculteurs ou de gens de la mer. Et je crois que ça a à voir avec cette sensation que j'avais quand j'étais petit, d'être dans un endroit, finalement, mes camarades qui étaient de Saint-Brieuc, ils allaient à la pêche à pied avec leurs parents et ils savaient très bien dans quel trou ramasser des choses, etc. Moi, derrière la dune de Crépidule, j'étais au bord de la mer et j'attrapais des poissons, des crabes, et je les transvasais de flaques et je les regardais. Et j'avais rien à en faire de plus. Et il y avait pour moi juste une fascination à être devant des petits animaux et à être devant quelque chose de vivant. Mais je ne les mangeais pas, je n'avais pas pour but de faire la cuisine avec. Je contemplais une espèce de petite vie qui était présente comme ça. Et finalement, ça avait à voir avec qu'est-ce que c'est que d'être vivant. Je crois que c'est au bord des Rosaires, au bord de cette plage, que m'est venue vraiment une sensation de partager un espace avec d'autres êtres vivants et en même temps d'être fasciné parce qu'il n'y avait rien à communiquer. Et donc je les transvasais de flaque, je les regardais dans la flaque et voilà. Alors là, c'est le mot lueur parce que j'ai trouvé une citation qui me parle assez bien peut-être de ce que j'avais ressenti dans les flaques de mon enfance. C'est une citation de Georges Bataille. « Rien, à vrai dire, ne nous est plus fermé que cette vie animale dont nous sommes issus. Car l'animal n'est pas simplement chose, n'est pas pour nous fermé et impénétrable. L'animal ouvre devant moi une profondeur qui m'attire et qui m'est familière. Cette profondeur, en un sens, je la connais, c'est la mienne. Elle est aussi ce qui m'est le plus lointainement dérobé. Je ne sais quoi de doux, de secret, de douloureux, prolonge dans ces ténèbres animales l'intimité de la lueur qui veille en nous. » Et cette question de ce qui se passe quand on attrape des petits poissons, des crevettes, elle était redoublée par le fait que, assez rapidement, j'ai appris des choses que ne connaissent pas les petits pêcheurs, c'est qu'il ne faut pas aller dans les grandes flaques très belles avec des jolies algues et avec son épuisette, il faut aller ramasser les gobies sous les rochers là où il n'y a pas d'eau. Et en fait, en soulevant des rochers à des endroits où il n'y avait pas de flaques, je trouvais des gobies assez gros qui étaient sur le sol, dans l'humidité, mais hors des flaques. Et évidemment, le moment où on trouve ces poissons a comme ça une petite résonance très, très singulière, parce qu'on a un peu l'impression d'être connecté à l'animal qui est sorti de l'eau. C'est typiquement l'image du poisson, parce que quand vous essayez de les attraper, ils avancent avec leurs nageoires sur le sol et ils ne sont pas dans l'eau. Donc ces gobies me racontaient l'origine, la sortie de la mer. Il faut savoir que la sortie de la mer, la première fois, c'est pas des animaux, c'est des plantes. Et ce ne sont pas des plantes qui sont sorties de l'eau. C'est l'eau qui s'est retirée plusieurs fois et progressivement et qui a fait que des plantes ont dû s'habituer. Donc c'est un mouvement de marée progressif qui a créé la vie sur Terre. Juste un mot, estran, c'est aussi un endroit juridique particulier, cet endroit dont je parle. C'est un endroit entre la marée haute et la marée basse où il y a certaines règles précises de droit, etc. Par exemple, les bouchots sont des concessions très particulières et ça s'appelle l'estran. Alors là, je vais vous parler de castellologie littorale. Il y a un barrage, il y a un livre de Jean-Yves Joinet, qui est quelqu'un qui connaît bien Kiasma, puisqu'il a une controverse avec Olivier Marbeuf. Jean-Yves Joinet a écrit un livre qui s'appelle « Les barrages de sable ». Et dans les barrages de sable, il a une théorie assez comme ça carrée. Il dit on ne construit pas des barrages, on ne construit pas des châteaux de sable sur la plage pour le plaisir, on lutte contre la mer. Et moi, je pense, alors même si lui-même change un peu d'avis, je pense qu'on ne lutte pas avec la mer, mais qu'au contraire, l'estran est un espace de liberté absolument formidable parce que c'est un des seuls endroits où ce qu'on fait n'a pas de conséquences. C'est-à-dire que finalement, je pouvais déplacer, même en étant un petit écologiste, je pouvais déplacer des poissons, des crevettes, les mettre dans la flaque d'à côté, les regrouper. Tout est nettoyé par la marée suivante. Et de la même façon, on peut construire un château très beau, on peut construire un château très raté, on peut y passer des heures comme 5 minutes. À un moment donné, la marée repasse et remet à zéro. Et tout ce qu'on fait, finalement, dans l'estran, surtout sur une plage de sable, encore davantage, est bâti sur du sable et sera effacé dans les 6 heures. Il y a 2 marées par jour. Donc c'est l'endroit absolu de l'éphémère et du jeu. C'est un endroit où on peut tester des choses, vivre des choses, avec la sensation qu'il n'y a pas de conséquences et que c'est un espace-temps pris dans la marée, pris dans une espèce de mouvement d'alternance de la lune et du soleil qui nous donne une certaine liberté. Donc la dernière carte, c'est le sable. C'est simplement une petite image pour terminer. C'était un monsieur qui s'appelle Guy Ribes, qui était en fait le faussaire de Picasso. C'est-à-dire qu'il a passé une grande partie de sa vie à faire des faux Picasso. Et il racontait une histoire qu'en réalité, il a volé dans une nouvelle de Ray Bradbury. Et il disait que... Mais c'est plus beau raconté par le faussaire de Picasso. Et il disait qu'en fait, un jour, il avait vu à Nice Picasso sortir de sa voiture. Je viens de réaliser que ça a lieu à Nice, où il n'y a pas de marée. Et donc, il disait que Picasso était sorti de sa voiture et était allé sur le sable et avait fait de grands dessins du Picasso, comme ça, et qu'il avait regardé doucement la marée grignoter cette œuvre de Picasso et la faire disparaître. Voilà, merci.